élites, c'est-à-dire les cadres, les scientifiques, les managers, et au pire, un néo-tillérisme aux effets désastreux, hein, source d'une désocialisation et l'appauvrissement de soi. C'est-à-dire qu'il n'y a de travail cognitif que du travail évolutif, du travail inscrit dans le temps. Donc il faut cette permanence, il faut cette durée, il faut cette continuité de l'acte dans le temps. Il n'y a pas de production, je dirais, construite sur ce modèle social de travail. Alors, dans quelle mesure les métropoles, et c'est mon deuxième propos, sont-elles impliquées par les mutations du travail contemporain, par ces mutations? Alors, je me suis un peu creusé la tête parce que c'est pas évident. Dans la perspective qui est la nôtre, je crois que l'implication des métropoles, elle tient à deux indéterminations. La première indétermination réside dans la pression de la concurrence pesée sur les firmes, une obligation quasi permanente de créer, d'inventer, de se renouveler dans les capacités productives. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'ensuit que les collectifs de travail doivent épouser cette dynamique quelque part. Il y a, dans le paradigme du travail cognitif, ces ajustements de compétences, de capacités et des effectifs, c'est problématique, c'est antinomique. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir une flexibilité des collectifs et leur inscription dans le temps pour essayer de développer une performance productive ou même sociale, hein, pour eux-mêmes. Hein, je reviendrai là-dessus. On a cette situation où rien ne garantit que les entreprises trouvent à tous les coups sur le marché du travail des compétences spécifiques, des savoirs sociaux qui conviennent exactement à leur projet. Et d'autre part, je le disais, cette dynamique d'ajustement, elle est en contradiction avec la nécessité d'inscrire les apprentissages dans la durée. Donc, pour ces deux raisons au moins, les métropoles ont un rôle à jouer dans la régulation de l'activité des firmes. Alors là, je ne suis pas allé très très loin dans la réflexion, je suis allé piocher dans les thèses de Pierre Veltz, hein, qui voit classiquement l'idée que la métropole fonctionne comme une plateforme logistique, comme un hub d'aéroport, hein, qui synchronise les temporalités multiples, qui nous permettent de configurer et de reconfigurer avec souplesse les chaînes d'activité, etc. Hein. Mais Veltz va un petit peu plus loin quand même, puisqu'il souligne un fait qu'on oublie souvent dans les modèles un peu standards, c'est que la métropole est le moyen pour, selon Veltz, de conjurer l'incertitude du futur, hein, ou l'opacité, hein, des futurs. Elle demande aux entrepreneurs de formuler des choix stratégiques réversibles. Hein. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire, elle garantit un approvisionnement permanent en main-d'œuvre spécifique, en main-d'œuvre spécialisée et socialisée surtout. Hein. Donc, à moyen long terme, on a des entreprises qui tirent parti de toutes les retombées de l'activité des institutions publiques et privées, de recherche, d'éducation, des réseaux professionnels qui existent, des réseaux d'entraide et de solidarité, notamment ces réseaux d'entraide et de solidarité, qu'est-ce qu'ils ont, je crois que c'est bien vu par Menger quelque part, ça permet aussi certes la protection, mais ça permet en permanence un dispositif dans la métropole. Hein. Ça c'est un point important, je crois que à ce niveau-là, il y a une fonctionnalité assez intéressante. La notion de sur-effectif et de leur ancrage dans les solidarités, hein, dans les réseaux sociaux en particulier. Hein. Donc, quelque part, la métropole, au plan purement logistique et fonctionnel, tendrait à concilier deux dimensions un peu incompatibles. C'est, un, elle absorbe les chocs à court terme impulsés par la concurrence et les marchés mondiaux, et deux, elle permet de soutenir les anticipations des entreprises à moyen long terme en garantissant l'approvisionnement d'une simplification de la métropolarisation. Hein. Bon, mais il y a une seconde indétermination qui me paraît plus importante à mes yeux, hein, qui est l'inscription du travail cognitif dans les institutions du capitalisme. Cette inscription doit bien sûr être jugée au regard des dimensions du travail cognitif que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, spatial, temporel, entrepreneurial et productive. Hein. Bon, j'ai pas le temps, mais il faudrait regarder ici ce qui se fait dans les villes, en particulier les bureaux des temps. Hein, cette initiative lancée dans les villes en Italie sont un dispositif possible, je dirais, de gestion, hein, de la temporalité et de la continuité des activités au sein des métropoles. Je vais pas à ça, je vais essayer de vous présenter la chose d'une autre façon. Si le travailleur d'expertise et de savoirs sociaux dans le travail même, dans l'action même de travailler, seul même aujourd'hui, la production du capitalisme. Et je crois que c'est là, quelque part, le grand malheur, c'est le cauchemar des singularités productives qui sont prises constamment dans les raies des nouvelles enclosures de la côte, des processus marchands, de normalisation de la vie sociale et productive. Donc on a des institutionnels capitalistes aujourd'hui qui donnent de manière unilatérale. Exemple, la formation qui est dispensée par les entreprises qui vise à construire des capacités individuelles. On a des formules salariales qui valorisent la performance individuelle, etc., etc. On a des dispositifs institutionnels, le rapport salarial et les institutions financières, qui finalement tentent à faire de ces singularités productives une société de propriétaires, une société de propriétaires. Je forme le trait, mais pétri d'individualisme, détenteur d'un capital humain et spécifique, soucieux de les valoriser pour eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est la subjectivité là qui est désignée. Je dis que c'est la logique institutionnelle. C'est pas la même chose. C'est pas les pratiques en fait. C'est la logique institutionnelle. Elle porte en elle la construction d'une société propriétaire qui, pour caricaturer, je dirais que la figure productive des singularités marchandisées au sens des institutions, c'est le cyborg. C'est la figure du cyborg. C'est l'expert mercenaire des temps postmodernes qui travaille au plus offrant. C'est la mobilité professionnelle et c'est cette dynamique-là, c'est la mobilité. Comment ? Oui. Donc, je dirais que... voilà le tableau. Je dirais que les institutions du capitalisme aujourd'hui ne reconnaissent pas l'autre versant productif du travail cognitif, en collectif, où les échanges, les individus mutualisent, collaborent, partagent, bien sûr. Mais surtout, quand ils produisent ensemble, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se produisent eux-mêmes comme fragments d'une intelligence sociale, d'une force de travail sociale et collective, je dirais. Et ça c'est pas reconnu, ça. Ça, c'est nié, ça n'a jamais été, disons, la tasse de thé de ces institutions, si je puis dire. Et je pense qu'à ce niveau-là, le seul acteur ou l'institution qui peut s'impliquer, c'est la métropole. C'est-à-dire que il me semble que la métropole peut ou a les moyens d'incarner l'intelligence sociale collective comme force productive directe dans le travail, quelque part. Parce que il faut bien comprendre que cette intelligence sociale développée dans le travail cognitif, elle n'est pas donnée en soi. Notre travailleur cognitif, il a besoin de prendre appui sur un espace politique et institutionnel qui lui garantisse, je dirais, les moyens, les possibilités d'élargir son champ d'expérience, de diversifier ses activités. C'est là une condition centrale de la créativité sociale. C'est là, sans mobilité, pas de diversité, sans diversité, pas d'inventivité. Et sur le fond, il y a quelque part une urgence politique à ce que le travailleur cognitif, quelque part, soit adossé à des droits. En particulier, le premier d'entre eux, ou les deux premiers d'entre eux, c'est les moyens et les droits sociaux de circuler librement d'un emploi à l'autre, si c'est une chose. Ensuite, de faire en sorte aussi que les savoirs accumulés, les savoirs sociaux et les savoirs experts par les individus doivent être entretenus, conservés, renouvelés, élargis, indépendamment de l'emploi qu'ils occupent. Sinon, on casse la continuité, le fil central qui fait le nœud central, la continuité temporelle, je dirais, de l'activité qui est productive. Mais ce n'est pas tout, je dirais. Il faut aller plus loin que ça, parce qu'on ne peut pas se contenter d'accorder des droits de tirage sociaux, je dirais, aux individus sur les ressources mises en œuvre par les... Ça ne nous empêchera pas, je crois, de sortir des cadres étriqués et ultra-violents de la société de propriétaires qui, je crois, en ce moment est en marche. Il faut aller plus loin, me semble-t-il, en demandant aux métropoles une implication politique directe au niveau des conditions de production, de diffusion, des normes et des langages et des représentations collectives mobilisées dans le travail. Parce qu'il faut bien comprendre que si l'on raisonne dans le cadre du paradigme du travail cognitif, il est important que le travail cognitif retrouve son identité dans les valeurs, dans les représentations, dans les normes et les langages qui lui servent d'outil à la production. Et ça, il retrouve son identité qui peut être culturelle, ethnique, religieuse, et j'en passe encore. C'est une condition qui me paraît être, je dirais, de simple bon sens, dans la mesure où, sans que, si l'individu ne retrouve pas ses affects, sa dimension identitaire dans les langages, dans les outils qu'il mobilise pour se produire lui-même, comment pourrez-vous développer des activités qui sont de plus en plus subjectives, artistiques, ou voire affectives, hein? Le nier cette dimension-là, c'est à mon sens passe entre travail et identité, ou construction de. Et de l'autre côté, c'est perpétrer, un principe nauséabond de hiérarchisation des cultures, sur lequel je ne m'attarderai pas. Par conséquent, la métropole qu'elle doit donner aux travailleurs cognitifs, l'assurance qu'ils puissent penser ou définir en des termes qui lui permettent le développement de toutes les facettes de sa personnalité, surtout le registre, toute la palette d'identité qui constitue son identité. Donc, c'est un vaste enjeu au plan des règles et des principes de fonctionnement de nos démocraties, bien sûr. Mais cela existe aussi de la part des métropoles de garantir quoi ? Garantir, je dirais presque constitutionnellement, un principe de mixité. Un principe de mixité, de métissage, d'hybridation, c'est-à-dire qu'on y reviendra tout à l'heure. Bon, pour conclure, disons, je dirais que si vous croyez avec moi que le travail cognitif occupe une place centrale dans la dynamique productive aujourd'hui, il est de première de réfléchir à un cadre de vie qui permette un peu le libre épanouissement de notre individualité sociale, quelque part. Et ce cadre, bien sûr, suppose des conditions matérielles et organise clairement le statut d'actif dans ce nouveau modèle de travail. Car le travailleur cognitif, c'est à peine un levier pour son travail et sa vie productive. Donc, quelque part, il a besoin un petit peu, de la responsabilité de la métropole, enfin politiquement, en tant qu'institution, de protéger les ressources de ces individus, leurs capacités, les particularités qui sont les siennes, sur un principe tout simple, c'est le droit du travailleur cognitif, bien sûr, de préserver ses différences, mais aussi, voilà.